că voilà le titre de mon intervention. Oui, j'ai structuré cette intervention en trois parties. C'est tout d'abord, évidemment, une préambule où je présente brièvement le roman dont je vais analyser par ce travail. Il s'agit du roman d'Amélie Nothomb, Ni d'Ève ni d'Adam, publié en 2007, et qui m'a semblé intéressant pour son jeu entre le réel et la fiction. Elle s'insère, l'auteur réel s'insère dans le roman et se plaît là, dans le roman, dans l'univers du roman, à interpréter divers rôles, tantôt au niveau du dire, tantôt du niveau du narré, donc de l'histoire proprement dite. Je passe plus loin pour m'arrêter sur deux des directions que j'ai suivies. L'une des directions se réfère aux postures énonciatives du jeu discursif d'Amélie. Et l'autre sur sa position humoristique. Le cadre théorique que j'ai employé, exploité dans cette communication est en principal composé de notions comme instance énonciative, source énonciative, PDV, point de vue, prise en charge, PEC ou PEC, posture énonciative et tout cet ensemble de notions seront exploitées dans les deux suivantes directions, posture discursive ou énonciative du jeu fictionnel d'Amélie et bien sûr la deuxième thématique que j'ai abordée, celle de la position humoristique du jeu discursif, qui est d'ailleurs l'empreinte, la marque essentielle de ce roman et d'autres romans écrits par cet auteur belge. Pour ce qui est des postures discursives, je veux mentionner tout d'abord qu'il s'agit des relations entre ce jeu énonciatif et les autres énonciateurs. Certains sont ses interlocuteurs, d'autres sont absents et sont présentés d'une manière par des citations, sous la forme du discours rapporté ou bien mentionnés allusivement. Et il s'agit dans ce cas d'énonciateurs seconds. Et ces relations avec ces énonciateurs qui sont des autres que soi, mais aussi elles se rapportent à elles-mêmes, et alors ce sont ces relations avec les autres de soi. Ces positions qui sont changeantes au cours des échanges se signalent à travers le mode de donation des référents, le choix de prédication, les reformulations, les types d'arguments, la rhétorique utilisée et toutes ces stratégies cristallise finalement des points de vue qui sont de différentes catégories, factuelles ou généralisantes, doxiques et culturelles. Dans ce cas, les PDV doxiques, c'est ce on vérité ou ce que dit Kéré, ça du savoir partagé, en rapport avec une multitude de plans cognitifs, linguistiques, normatifs et beaucoup d'autres. Les postures énonciatives les plus marquantes du jeu d'Amélie sont celles du type de la concordance concordante, d'après le linguiste Alain Rabatel, concordance concordante qui signifie le consensus, l'accord ou la symétrie relationnelle. Il y a encore une relation de discordance, discordante ou dissensus. Cette relation relève de l'expression manifeste et explicite de nouveaux PDV du jeu fictionnel en opposition à un PDV antérieur source énonciative. Et finalement, chez cette romancière, dans ce roman, on trouve également un type de relation discordance-concordante associée à la dissymétrie relationnelle, à la sous-énonciation d'un PDV. Et cette sous-énonciation est en compagnie d'une reprise avec réserve du PDV originel. Et cela, cette reprise, par une distance face au contenu du PDV originel, a des fins habituellement humoristiques. Alain Rabatel s'est arrêté aussi sur un autre type de posture énonciative, en correspondance toujours avec les relations dissymétriques entre énonciateurs, mais complémentaires, la discordance complémentaire à la discordance concordante, à savoir la concordance discordante, qui est une posture de surénonciation par rapport à la concordance discordante, qui est à la discordance concordante, qui est une posture de sous-énonciation. Et la surénonciation est mise en relation avec l'ironie. Il faut pourtant préciser que d'habitude, dans l'univers romanesque d'Amélie Nothomb, l'ironie n'est pas tout à fait employée. Elle préfère surtout l'humour. Parce que le jeu d'Amélie, le jeu discursif fictionnel d'Amélie, préfère jouer avec la vérité originelle sans la rejeter totalement, comme c'est le cas avec l'ironie. Et j'ai donné deux exemples parmi d'autres, une multitude d'autres, de consensus, respectivement de dissensus dans ce roman, ni d'Ève ni d'Adam. Consensus, PDV qui sont en consensus avec le PDV originel, ce sont d'habitude ceux qui se réfèrent à la nationalité japonaise. Elle a toujours, dans ce roman et dans d'autres romans, des points de vue élogieux à l'adresse du peuple nippon, qu'elle qualifie par des superlatifs presque partout. Elle donc apprécie énormément le modèle culturel nippon. D'ailleurs, elle le dit constamment, elle voudrait avoir la nationalité japonaise, mais elle ne l'avait pas jusqu'à ce roman obtenu. Donc là, elle apprécie l'éthos nippon pour sa dignité, pour sa connotation héroïque, pour sa curiosité sincère, pour sa ponctualité, et enfin, elle a beaucoup d'autres qualificatifs, hauts qualificatifs à son adresse. Pour ce qui est du dissensus, j'ai choisi un PDV qui, on ne peut pas dire qu'il ternit l'image parfaite du peuple japonais parce que son PDV critique ne vise pas le peuple en entier, mais il s'agit plutôt d'une critique voilée de ce on autorité qui, dans ce cas concret, se réfère à l'enseignement japonais.
Une minute.
Donc, sa position dépréciative
se
réfère en particulier au système d'enseignement. Et j'ai donné ici une citation un peu plus longue parce que elle crée une scène tout à fait insolite, paradoxale, concernant le comportement d'un de ses professeurs. Elle est étudiante dans un institut japonais pour apprendre ou perfectionner le Japon. Et là, elle a une sorte de désaccord avec l'un de ses maîtres. Pendant les cours de japonais qu'elle suivait, lorsqu'un détail l'intriguait, elle était habituée à lever la main pour poser des questions. Mais les divers professeurs manquaient de peu d'avoir une crise cardiaque quand ils me voyaient brandir mes phalanges vers le ciel. Je croyais qu'ils se taisaient pour me laisser parler et poser hardiment ma question, à laquelle on répondait de façon étrangement insatisfaisante. Cela dura jusqu'au jour où l'un des maîtres, avisant mon geste coutumier, se mit à me hurler dessus avec une violence formidable. Assez. Je restais tétanisée, tandis que tous les étudiants me regardaient fixement. Après le cours, j'allais m'excuser auprès du professeur, surtout pour savoir quel était mon crime. On ne pose pas de questions au sensei, me gronda le maître.
C'est fini. Oui, il faut finir.
Mais si je ne comprends pas, on comprend. Je suis alors pourquoi l'enseignement des langues boitées au Japon. Notons à propos de ce PDV conclusif, mais aussi à propos d'autres PDV divergents, qu'ils ne se présentent pas habituellement comme des assertions directement négatives, le refus étant formulé plutôt de manière voilée, allusive, détournée. Remarquons de même les effets amusants de la scène paradoxale créée grâce au jeu distancié du jeu discursif qui se sert d'une anecdote, d'une synecdoque inappropriée contextuellement, phalange pour main, accompagnée d'une image imprégnée d'une exagération qui heurte la logique, l'opinion commune, phalange brandie vers le ciel. C'est cette scène nous aide à faire la transition vers l'entrée en scène de l'humour.
Il faut conclure.
S'agit toujours d'un partage de liberté, du fait que l'acte humoristique est tourné à la fois vers le monde, dans le désir de le remettre en question, et vers l'autre, dans le désir de le rendre complice. Il est amplement exploité dans cet univers fictionnel sur deux doubles dimensions, ludique, jeux de rôle, par exemple, lors des jeux de rôle identitaires, et simultanément moqueuse de contraintes. Et j'ai donné par la suite quelques exemples.
Il faut terminer. On a dépassé largement.
Concernant la position humoristique du jeu fictionnel d'Amélie.
Merci beaucoup.